Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à VOA Afrique, c'est votre magazine hebdomadaire sur le sport, Sporama sur notre antenne. Comme chaque semaine dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous attendons également vos appels en direct, le numéro de téléphone, le 001 202 619 30. T1-40. Avec nous ce soir pour reparler de l'actualité sportive, on part bien évidemment au Gabon, retrouver à Libreville Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va également saluer Hamdine Sy qui se trouve en France. Bonsoir Hamdine.
Bonsoir Nicolas Pinon, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Et on va saluer également notre confrère de Radio Mars au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et puis un petit nouveau dans la bande ce soir, hein, il interviendra avec nous en fin d'émission tout à l'heure pour parler de NBA, Cheikh Tiro. Bonsoir Cheikh.
Bonsoir, vous allez bien?
Ça va, merci beaucoup. Allez, on est parti, on va évidemment reparler de ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît les chocs de cette CAN. Vous le savez, la compétition aura lieu du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. On a beaucoup attendu ce tirage et donc... Pour le moment, les groupes et les jeux sont faits. Je vais vous rappeler aux uns et aux autres les différents groupes avant de décortiquer les différentes rencontres. On a effectivement dans le groupe A le pays organisateur, le Gabon, face à un nouveau, un petit venu qui va faire le match d'ouverture. C'est bien évidemment la Guinée-Bissau. On retrouve également les Lions indomptables du Cameroun et également les étalons du Burkina Faso. Dans le groupe B, l'Algérie, le Zimbabwe, le Sénégal et la Tunisie. Le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, face au Togo, au Maroc, à la République démocratique du Congo. Et enfin dans le groupe des Le Ghana, l'Ouganda, l'Égypte et le Mali. Allez, on va évidemment parler de cette compétition. Jules Valentin Ngoué, ça se passera chez vous, ça se passera au Gabon, le pays organisateur qui aura donc ce match a priori facile, mais attention, piège, ce match d'ouverture contre la Guinée-Bissau et puis deux autres cadors évidemment, le Cameroun qui n'a plus rien gagné depuis longtemps mais qui se refait une petite santé et les étalons du Faso. Quel est votre sentiment sur ce groupe A?
Oui, ce qu'on peut dire sur ce groupe A, c'est que par rapport aux autres groupes, on a quand même l'impression que le pays organisateur n'est pas si mal tombé que cela. Et surtout quand on sait que le Gabon perd difficilement ses matchs à Libreville au Gabon d'une manière générale, et qu'en fait sa seule bête noire, c'est justement le Cameroun qui vient parfois gagner à Libreville. Mais le match d'ouverture est un match piège, comme on le sait dans toutes les compétitions. La Guinée-Bissau a éliminé, il faut dire qu'elle a fini en tête de sa poule et a éliminé des équipes comme le Kenya, comme le Congo, et ne vient pas en victime expiatoire, surtout jouera sans pression. Donc attention au Gabon pour ce match d'entrée. Mais je sais que les Gabonais vont mettre le grand rouleau compresseur, souvent à domicile. Ils sont exaltés par un public tout à leur faveur.
Et il y aura également le Burkina Faso, les étalons, hein, finalistes de la CAN 2013. On va prendre un premier appel en direct de Ouagadougou. On va retrouver Richard Zongo. Bonsoir Richard.
Oui, bonsoir Nicolas Pinot et bonsoir à tous les amoureux du ballon.
Alors évidemment, hein, on a un œil averti hein, sur le football à Ouaga. Quelle est votre analyse sur ce tirage au sort? Pas forcément évident hein, pour les étalons du Faso. Comment vous voyez-vous l'équipe?
Bon, je vois que le tirage de cette 30e édition de la CAN qui va se dérouler du 14 janvier au 5 février 2017, je crois que les étalons du Burkina sont logés dans une poule vraiment difficile. Quand on connaît les capacités de l'équipe camerounaise et que le Gabon qui joue à domicile, je crois que ça sera très très difficile et compliqué pour les étalons du Burkina. Mais avec les surprises que nous avons souvent au cours des compétitions africaines, je crois que si les étalons du Burkina bataillent dur et que vraiment ils essaient de jouer un football comme ils l'ont fait en 2013, je crois que les étalons pourront vraiment s'en sortir de cette poule A.
Merci beaucoup Richard de nous avoir appelé depuis le Burkina Faso. On va poser la question à Hamdine Sy. Hamdine, évidemment, hein, le voisin des Sénégalais, la Guinée-Bissau, est-ce que vous y croyez à cette surprise pour une première participation? Jules Valentin le rappelait, très beau parcours en éliminatoire. Est-ce que vous y croyez à ce petit poussé?
Tout à fait, Nicolas Pinot. C'est vrai que c'est un néophyte, c'est une qualification historique pour les Bissau-Guinéens, mais ils vont jouer sans pression. Hein. Tout sera possible pour cette équipe bissau-guinéenne, si on sait que le football bissau-guinéen est en train quand même de monter en puissance, parce que, comme vous le savez, le jour qui a permis à l'équipe du Portugal de remporter l'Euro est originaire quand même de la Guinée-Bissau. Cela veut dire ce que cela veut dire. Donc, les Bissau-Guinéens sont en train de faire comme les autres pays ont fait, comme l'Algérie, comme le Sénégal, de récupérer leurs buts nationaux pour monter une équipe compétitive. Et je pense qu'ils ont quand même un bon coup à jouer parce que cette poule A est jouable. C'est vrai que le Gabon joue à domicile. C'est vrai que le Cameroun reste le Cameroun. C'est vrai que le Burkina Faso également a eu à faire quand même des exploits au niveau des Coupes d'Afrique des Nations. Mais la Guinée-Bissau a une belle carte à jouer et je pense qu'elles vont jouer ça à fond.
Merci beaucoup. Allez, on va parler de ce groupe B, groupe explosif évidemment. L'Algérie, le Zimbabwe, le Sénégal et la Tunisie. Hein, comme en 2015 évidemment, l'Algérie se retrouve avec le Sénégal et l'Algérie a également hérité de la Tunisie. Hein. Ça c'était comme en 2013 face évidemment en Afrique du Sud. Alors à Medine Birouk, on a évidemment ces Algériens qui se sont séparés de leur entraîneur récemment. Que penser de ces Fenech qui évidemment nous ont fait beaucoup espérer lors de la Coupe du Monde 2014. Après, il y a eu cette déception de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Qu'attendre des Fenech ?
Attendre le meilleur ou le pire, tout dépendra de l'état d'esprit avec lequel ils vont aborder la compétition. S'ils arrivent avec l'humilité qu'ils ont eu en Coupe du Monde, avec la rigueur tactique que l'avait inculqué à l'époque leur sélectionneur Vahid Halilhodžić, ils pourront aller très loin parce qu'ils possèdent le vécu, les qualités individuelles, le collectif, mais s'ils arrivent comme en 2015 en terrain conquis, s'ils disputent quelques rencontres laborieuses comme ça avait été le cas lors de la CAN disputée en Guinée équatoriale, ils peuvent être battus par n'importe quelle sélection africaine pour peu que celle-ci soit rodée et qu'elle ait confiance en elle. L'Algérie passe par une période à la fois fructueuse sur le plan des résultats. On a vu une phase qualificative brillante, 25 buts marqués, quelques prestations très convaincantes, mais également une période trouble avec le départ de Christian Gourcuff, l'arrivée débarquement par les joueurs, en tout cas ce qu'on annonce du côté d'Alger de Miroslav Rajevac, qui n'aura duré que deux rencontres. Et puis, il ne faut pas oublier que le match face au Cameroun a montré les lacunes d'une équipe avec certains joueurs qui disposent du statut de star, qui ne jouent plus dans leur équipe, c'est le cas de Brahimi, et d'autres qui doublonnent au même poste et qui ont la possibilité d'être titulaires, qui évoluent à un niveau supérieur à l'heure actuelle. Je parle de Mahrez qui vient d'être nominé pour le Ballon d'Or 2016, mais également Slimani. Ils ont des automatismes, ils évoluent dans le même club, Leicester. Donc il va falloir voir le profil de l'entraîneur qu'ils vont prendre. Est-ce qu'il aura l'expérience et le vécu d'une compétition africaine ? On parle de Roland Courbis, on parle d'autres noms comme Alain Perrin. Et puis surtout, est-ce que ce conglomérat d'individualités vont réfléchir collectif, vivre et respirer collectif tout au long d'une compétition qui dure trois semaines certes, mais il y a deux semaines en amont de préparation, cinq semaines pour un groupe. Ça peut aller dans le sens d'une réussite comme ça peut exploser dans tous les sens.
Ouais, merci Amine. On va prendre un autre auditeur qui nous appelle depuis N'Djamena au Tchad, Abaye Chobenz. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur, bonsoir.
Alors vous, vous avez évidemment parié sur le Cameroun. Hein. Quelles sont les chances, selon vous, des Lions indomptables ?
Les chances des Lions indomptables, premièrement, c'est l'individualité de cet attaquant. Et secondo, c'est l'emplacement. La Coupe d'Afrique se déroule au niveau de l'Afrique centrale, bien sûr au Gabon. Et le Gabon est directement voisin du Cameroun, ce qui donne la possibilité à plusieurs spectateurs d'aller assister, d'aller participer, encourager l'équipe nationale du Cameroun. C'est ça l'avantage pour lequel je pense que le Cameroun pourra gagner à travers l'aide des supporters.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé depuis la capitale tchadienne. On va évidemment continuer à parler de cette CAN 2017, on le rappelle, qui va se dérouler en début d'année au Gabon. On va parler du groupe C, le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses évidemment ont changé depuis 2015. Peut-être la dernière en date, la retraite internationale de Yaya Touré. Mais cette Côte d'Ivoire, désormais entraînée par Michel Dussouyer, qui va retrouver sur sa route, tiens, c'est intéressant, le Maroc entraîné par Hervé Renard, le même sélectionneur qui avait réussi à faire gagner la Zambie en 2013 et la Côte d'Ivoire en 2015. Hervé Renard va-t-il réussir finalement cette passe 2-3 avec trois équipes africaines différentes? On va voir ça dans ce groupe. C'est également la République démocratique du Congo et le Togo, également une valeur sûre. Et l'information peut-être avec vous, Amine Birou, qu'on entend que les Marocains se plaignent de leur hôtel à Aouiem, puisqu'ils sont à 70 km du lieu où ils vont jouer les rencontres. Et apparemment, la Fédération marocaine de football qui donne de la voix. Hein. Quelles sont les informations dont vous disposez?
Les informations dont on dispose, c'est qu'Hervé Renard, qui était présent au tirage au sort, a pu aller sur place. Ce n'est même pas Aouiem, c'est à Bitam. C'est l'hôtel qui avait, l'hôtel et la ville qui avait été attribué au Maroc et au Togo par la Confédération africaine de football. Dans ce genre de circonstances, si la fédération du pays concerné accepte ce lieu de résidence, c'est à la charge de la CAF. Si elle le récuse, c'est à la fédération concernée d'aller trouver un meilleur emplacement, un meilleur aménagement. Et a priori, c'est ce que vont faire les Marocains qui ont pour habitude de choisir leur lieu de résidence. Et je pense que l'inconvénient, c'est d'être loin du stade, des terrains d'entraînement et surtout de partir quasiment à l'inconnu. Aouiem, les installations ne sont pas prêtes quasiment et il va falloir véritablement que les Marocains puissent trouver un endroit qui leur convienne pour disputer cette compétition le plus sereinement possible.
Merci beaucoup Amine, on va revenir évidemment sur la composition de ce groupe. Jules Valentin Goué, on rappelle la Côte d'Ivoire, le Maroc, la RDC et le Togo. Certains parlent d'un groupe de la mort. Vous, quel est votre avis sur ce groupe C qui est évidemment très très difficile?
Oui, c'est un groupe surtout équilibré. Et la Côte d'Ivoire qui tient son rang et malgré les changements de joueurs, c'est une équipe en transition mais qui fait ses preuves sur le terrain. Mais vraiment l'équipe la plus attendue est, je crois, la RDC, un bon mélange de professionnels jouant à l'extérieur et de locaux opérant dans les clubs les plus brillants en Afrique et qui a un collectif vraiment très très attrayant ces dernières années. Donc ce seront les favoris et a priori au départ de la poule. Mais à côté, nous avons des formations très ambitieuses. Le Maroc qui nous revient bien, à un bon niveau et qui a à sa tête un entraîneur qu'on connaît pour le culte, c'est son culte de la gagne. Mais surtout le Togo qui, de toutes les équipes, va constituer le contre-modèle. Et le Togo aime jouer en contre et se trouve devant trois équipes joueuses. Ça l'arrange et réellement, surtout que son entraîneur Claude Leroy est un spécialiste en la matière. Je crois que nous aurons des étincelles dans cette poule et des surprises pratiquement assurées. Et plus d'une équipe, je suis sûr, va déjouer devant Claude Leroy.
Oui, on rappelle que les Togolais, ils ont arraché la dernière place qualificative en terminant deuxième du groupe A derrière la Tunisie. Ils avaient gagné 5-0 face à Djibouti et ils avaient également remporté, compté sur la victoire 4-1 des Tunisiens face au Libéria. Peut-être question pour vous, Amdinsi, évidemment, concernant cette Côte d'Ivoire. Hein, Michel Dussuyer, la Côte d'Ivoire qui a bien changé depuis le titre de 2015. Est-ce que vous pensez que les éléphants vont pouvoir briller dans cette compétition, sachant que les éliminatoires ont été plutôt difficiles pour la bande à Dussuyer?
Je pense que la Côte d'Ivoire aura quand même du mal à briller en ce moment parce que il y a un fin de cycle quand même.
Exactement.
On constate que les Yaya Touré sont en train quand même de quitter cette équipe. Et est-ce qu'ils ont été remplacés? Là est la question. Parce que depuis que la génération dorée des Yaya Touré, des Gervinho, tous ces joueurs-là, des Drogba, ont atteint quand même plus de la trentaine, la Côte d'Ivoire a commencé à avoir des problèmes. Heureusement pour eux qu'ils ont gagné quand même la CAN avant quand même la retraite de certains cadres. Maintenant, on va voir si on a bien quand même travaillé pour que le départ de ces cadres ne se fait pas sentir. C'est ça le grand problème. En ce moment, Nicolas, moi, je ne crois pas trop à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Franchement, dans cette poule C, moi, je pense que le Maroc, comme vous l'avez dit, Hervé Renard, un sorcier blanc, un vrai sorcier blanc, parce que ce qu'il a réussi, aucun entraîneur étranger ne l'a réussi. Donc, je mise un peu sur le Maroc, sur la RDC, mais également sur le Togo, parce qu'il y a un certain Corleroi. La Côte d'Ivoire, on va voir ce que cela va donner, mais moi je ne mise pas sur les éléphants de la Côte d'Ivoire.
Et oui, Claude Leroy, le sorcier blanc. Évidemment, on va prendre justement un appel depuis Yamoussoukro. Falikou Diomandé, bonsoir Falikou.
Oui, bonsoir monsieur.
Alors vous êtes à Yamoussoukro, que pensez-vous des chances de la Côte d'Ivoire peut-être de conserver son titre ou non?
La Côte d'Ivoire, si Dieu le veut, la Côte d'Ivoire va conserver son titre évidemment, parce qu'avec les jeunes qui montent en puissance actuellement, je pense comme ça, Jonathan Koja et tout, je pense que la Côte d'Ivoire est à mesure des trucs. Parce que la CAN passée, là, vous-même, vous avez vu que personne ne vendait cher la peau des Ivoiriens. Mais on a créé la surprise. Donc évidemment, moi, je pense que on va rééditer l'espoir encore, je pense.
Eh bien, on va voir ça. Merci beaucoup, hein, Falikou, de nous avoir appelé depuis Yamoussoukro. Je corrige ce que je disais tout à l'heure. Le premier titre d'Hervé Renard, c'était en 2012 avec la Zambie et pas en 2013. On va revenir sur Amin Birouk. Amin, évidemment, les Lions de l'Atlas qui reviennent. Il y avait eu normalement cette suspension 2017-2019 de la CAF qui avait été levée par le tribunal arbitral du sport. Les Lions de l'Atlas reviennent sur cette CAN. Alors, Hervé Renard, finalement, un faiseur de roi en Zambie, faiseur de roi en Côte d'Ivoire. Est-ce que finalement, Hervé Renard pourrait être faiseur de roi selon vous avec les Lions de l'Atlas? Amine, alors attendez, on a un petit problème à l'antenne. Est-ce qu'Amine, vous nous entendez à Casa?
Oui, je vous entends.
Alors Amine, je disais finalement, est-ce qu'Hervé Renard sera une troisième fois avec une troisième équipe différente le faiseur de roi?
Pour le moment, il n'a rien promis. Il s'est engagé à ce qu'il y ait une équipe qui combatte sur le terrain, qui rend les Marocains fiers, des joueurs impliqués, engagés. Il a surtout rappelé que ses adversaires n'étaient pas, ne devaient pas être négligés. Il a rappelé qu'il connaissait les joueurs ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est quand même le troisième match dans l'ordre de succession des confrontations que vont avoir les Lions d'Atlas. Il a surtout été très élogieux de la RDC, dont beaucoup ne parlent pas. Demi-finaliste en 2015, vainqueur du Chan avec un cocktail explosif de joueurs évoluant à l'étranger. On parle de Dieu merci Bokani, de Bakombu et d'autres qui constituent l'ossature de l'AS Vita Club, du TP Mazembe, qui ne vont pas être dépaysés puisque nous sommes en Afrique centrale. Et évidemment, on parle aussi de l'équipe du Togo. C'est un peu l'affrontement entre le maître et l'élève. On rappelle que Hervé Renard a été l'adjoint de Claude Leroy pendant son passage au Ghana en 2008. Et donc, concernant l'ossature de l'équipe du Maroc, les places vont être très chères et c'est une des rares fois où le Maroc ne débarquera pas à la CAN en terrain conquis, mais plutôt de façon humble, faisant profil bas. Et dans ce genre de situation, l'équipe du Maroc est très dangereuse. Lorsqu'elle est outsider, lorsqu'elle ne figure pas dans les petits papiers des pronostiqueurs ou des bookmakers, elle peut au moins franchir un premier objectif. L'objectif, faire mieux que lors des dernières éditions et franchir le premier tour.
Oui, c'était un peu ça, le même scénario avec la Côte d'Ivoire. Hein. En 2015, on s'en souvient, profil bas et finalement, au fur et à mesure des matchs, la Côte d'Ivoire qui était montée en puissance. Moi, j'aimerais qu'on parle à présent du groupe D, qui est un peu mon groupe préféré, parce que je trouve qu'il y a vraiment un peu de tout dans ce groupe D. Ça représente bien, évidemment, le football africain, avec l'Ouganda, évidemment, après le parcours lors des éliminatoires exceptionnels. On a le Ghana, vice-champion d'Afrique, on a le Mali et on a surtout la grande équipe d'Égypte. Oui, mais voilà, la grande équipe d'Égypte, qui, comme ces équipes de football en club, qui malheureusement n'a pas gagné depuis très très longtemps sur la scène continentale. Jules Valentin, évidemment, votre avis sur ce groupe et sur cette belle surprise ougandaise, hein.
Oui, mais c'est l'autre groupe de la mort. L'Égypte nous revient, mais pas n'importe comment. C'est vraiment le retour d'une équipe égyptienne triomphante, conquérante. Et si on en croit les éliminatoires, où il a laissé quand même en rade le grand Nigeria. Et nous avons également le Ghana et le Mali, même si les derniers matchs n'ont pas été très convaincants, mais c'est des équipes qui, quand elles sont en phase finale, le plus souvent atteignent au moins le carré d'as. Et là, ce sera un bon duel, un bon derby de l'Afrique de l'Ouest. Mais il ne faut pas oublier l'Ouganda, qui présente un collectif assez sérieux, avec beaucoup de joueurs locaux, qui déjà au Chan en Afrique du Sud avait fait une bonne impression, même si elle n'avait pas fait un long parcours. Et je crois que cette équipe se donnera le plaisir d'accrocher au moins un des trois grands.
Allez, on va prendre un autre appel. On va en Angola, mais on va parler du Congo. On va retrouver Jules Ngunza. Bonsoir, depuis Luanda. Bonsoir, Jules.
Oui, bonsoir la voix de l'Amérique, bonsoir à tout le monde qui m'écoute. Je suis vraiment très heureux de pouvoir voir, entendre même les Mamelodi Sundowns de remporter la coupe de la coupe de Ligue des Champions.
Oui.
Je suis très heureux. À mon avis, je pense que c'est vraiment une très belle performance car ils ont été éliminés par la situation de Kinshasa. Et après avoir dépêché vraiment ces gens, ont montré leur capacité de pouvoir remporter cette coupe-là. Vraiment, c'est un honneur pour l'Afrique et pour le monde aussi. Hein. Et nos joueurs qui viennent de l'Afrique aussi, vraiment, c'est vraiment une très belle valorisation.
Merci Jules de nous avoir appelé depuis Luanda. On va revenir sur ce groupe D, Amdinsi évidemment, pour parler du Ghana, hein, vice-champion d'Afrique, cette génération dorée évidemment. Est-ce que ce sera enfin l'année du Ghana chez les seniors?
Oui, je le pense, hein, parce que le Ghana, comme vous le savez, on les surnommait les Ghanéens et les Brésiliens d'Afrique. Mais depuis quelque temps, bon, ils n'arrivent pas quand même à marcher sur la plus haute marche du podium. À chaque fois, c'est soit des places d'un finaliste ou comme ce fut le cas de la dernière édition, finaliste malheureux. Mais le Ghana reste une très bonne équipe. Mais attention, il y a le Mali. Le Mali, qui monte en puissance, on ne le dit pas trop. Mais le Mali, avec ses équipes de petite catégorie qui sont en train quand même d'avoir de très bons résultats au niveau des footballs de jeunes. Le Mali peut également créer la surprise avec Alain Giresse, qui connaît très bien maintenant le football africain, Alain Giresse. Il y a également le retour des Égyptiens, les pharaons d'Égypte. C'est vrai que depuis quelque temps, l'Égypte, c'est pas ça. Mais ils sont revenus et je pense que l'Égypte également a une très bonne carte à jouer. Mais attention également, comme vous l'avez dit, à l'Ouganda. Attention à l'Ouganda, parce que les petites équipes qui n'ont rien à perdre peuvent toujours créer la sensation lors de cette grande compétition comme ça, comme la grande messe du football continental.
Et on suivra ça évidemment sur VOA Afrique. Restez branchés, Sporama, on revient tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VOA Afrique. Rapidement, un auditeur congolais en parlait depuis Luanda. La belle victoire, évidemment, des Mamelodi Sundowns en finale de la Ligue africaine des champions. Une défaite 1-0 face aux Égyptiens du Zamalek, mais une victoire insuffisante des Égyptiens, puisque les Mamelodi Sundowns, les Sud-Africains, le club de Pretoria, l'avaient emporté 3-0. C'est le deuxième titre continental, évidemment, après les Pirates d'Orlando qu'il avait emporté en 1995. On en parlait également tout à l'heure, la liste des 30 prétendants au Ballon d'Or a été publié. Le grand favori, c'est bien évidemment Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real et vainqueur de l'Euro 2016 avec le Portugal. Allez, on est ici aux États-Unis, ce côté-ci de l'Atlantique. On va parler de la NBA, hein, puisque la reprise sur les parquets, c'est évidemment dans la nuit de mardi à mercredi. On va en parler avec Cheikh Tiro, je le disais, qui est avec nous. Cheikh, rebonsoir.
Bonsoir, Nicolas.
Alors, on parlait évidemment de ce retour. Il y a eu la grande finale l'année dernière, la saison dernière, entre Golden State et Cleveland et King James, LeBron James, qui a enfin offert ce premier titre à la ville de Cleveland. Actuellement, Cleveland n'est pas le favori des entraîneurs de la NBA. Ça reste Golden State et Stephen Curry, qui est évidemment la grande star que tout le monde connaît. Votre analyse sur justement cette nouvelle saison NBA?
Cette nouvelle saison NBA, ça débute comme ça a débuté l'année passée. Et puis les Golden State, ils ont recruté Kevin Durant. Bon, les gens pensent que ça va être une bonne chose pour eux. Bon, actuellement, ils sont en train de faire bien avec Kevin Durant qui est Golden State, c'est une équipe qui chute beaucoup. Bon, Kevin Durant aussi, il peut attaquer les cerceaux plus ça. Donc ça les a beaucoup gênés l'année passée avec LeBron James qui joue partout dans le terrain. Bon, c'est une saison très intéressante parce que LeBron James, il se repose maintenant parce que LeBron James, il n'a pas de repos dans la saison. Il joue à peu près 80 matchs par saison.
Ce qui est énorme, hein, pour les gens qui...
Ce qui est énorme, c'est que c'est parce que trop souvent, il y a beaucoup de joueurs qu'il prend des matchs off. Il ne joue pas les matchs, mais LeBron, il joue tous les matchs. Donc, c'est pré-saison, il n'a pas beaucoup joué. Donc, il est en train de se préparer et se préparer pour l'année prochaine.
Alors, la grande question pour les amateurs de basket, il y a évidemment la descente aux enfers des Los Angeles Lakers, hein, qui est un autre grand club, évidemment, de Californie. Mm-hmm. Avec la retraite de Kobe Bryant, est-ce que les Lakers remontent la pente, finalement? Est-ce que vous pensez que le recrutement cette saison a été plutôt positif?
Bon, le recrutement avec les Lakers, ça a été toujours... C'était une très bonne équipe pour toujours. Bon, ils ont recruté des nouveaux joueurs, des jeunes gens qui viennent du collège. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience du NBA. Donc, ça va prendre du temps pour confirmer que c'est une équipe qui va être dans les championships de cette année, parce que c'est des enfants et ils n'ont pas beaucoup de leaders comme Kobe qui est parti. Ils viennent juste de voir aujourd'hui, ils ont signé Meta World Peace. Donc c'est lui le seul vétéran de l'équipe actuellement des Lakers. Donc ils ont des enfants qui doivent se maturer avec les matchs du basketball.
Eh ben merci beaucoup, Cheikh Tirou. Évidemment, on en reparlera sur VO Afrique. Vous l'entendez, la musique de fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier à Libreville Jules Valentin-Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas et à très bientôt.
On va remercier également Amdine Si qui était depuis la France pour nous. Bonsoir Amdine. Voilà, on va remercier également Amine Birouk qui était à Casablanca Radio Mars. Bonsoir Amine.
Merci Nicolas et à très bientôt.
On va remercier également Michel Joseph et Fredner Kayemit qui étaient derrière la vitre à la mise en onde de cette émission. Nicolas Pineau à la présentation. Merci à tous de nous avoir suivis. On est évidemment sur VOA Afrique, voaafrique.com et sur notre page Facebook. On vous dit à très bientôt sur VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de La Voix de l'Amérique.